Les rapports Repond, histoire d'un hôpital psychiatrique suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Premier épisode, le rapport d'établissement.
Imaginez un pont de montagne surplombant la vallée du Rhône juste au-dessus de Monté, petite ville industrielle à l'entrée du Valais. Ce terrain en pente est traversé par un torrent. Des châtaigniers centenaires poussent parmi les blocs erratiques, un chalet alpin et des hôtels de villégiature fin de siècle. C'est le paysage de Malévaux. Ouverte en 1901, la maison de santé a été créée par son premier médecin directeur, Paul Repond. Loin des clichés de l'asile-prison, cette institution se veut ouverte de par sa conception pavillonnaire où les patients peuvent aller et venir dans un grand parc public faisant face au paysage des Alpes vaudoises. Cette vision de la psychiatrie sera défendue par Paul Repond jusqu'en 1916, puis par son fils André, qui reprend le flambeau et dirige l'hôpital à la période qui nous intéresse. Imaginez le lieu au début des années 30. Les débats politiques s'enflamment, de nouvelles idées font leur apparition, certaines pour le meilleur, d'autres pour le pire. Des hommes politiques aux idées fâcheuses s'installent aux commandes. La marche du monde prend un tournant de plus en plus sombre. L'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la France sont en guerre. La Suisse est un îlot au milieu de la tempête, une coquille de noix dans une fournaise. Que faire lorsqu'on dirige un hôpital, si ce n'est poursuivre, fonctionner malgré tout, prodiguer les soins, nourrir la patientèle, entretenir les bâtiments, vivre et développer des projets, malgré la catastrophe. Sept petits livrets d'une quarantaine de pages nommés « Rapport sur la marche de l'établissement des années 1939 à 1945 » seront nos guides. Entre les lignes, nous allons tenter de comprendre le quotidien des personnes et de l'institution dans un pays en paix relative au cœur d'une Europe à feu et à sang. Pour ce premier épisode, plantons le décor et rembobinons la pellicule pour découvrir comment la maison de santé de Malévaux a été conçue et qui était son médecin directeur, André Repond, à l'aube du deuxième conflit mondial.
Le canton du Valais n'a possédé jusqu'en 1901 aucun établissement pour aliénés.
Extrait du rapport du 25e anniversaire de la maison de santé de Malévaux, André Repond, 1925.
Pays essentiellement agricole, la nécessité d'un asile ne s'était pas fait sentir aussi impérieusement que dans les cantons à grosses agglomérations urbaines. Les psychopathes valaisans devaient donc être envoyés dans les asiles d'autres cantons. Cependant, cet état de choses n'allait pas sans quelques inconvénients et l'encombrement progressif de ces asiles y rendait l'admission des Valaisans parfois difficile. En 1899, le docteur Paul Repond, ancien directeur de l'asile de Marsens à Fribourg, un aliéniste fort connu et des plus distingués, fit à l'État du Valais la proposition de construire, à frais communs, un établissement de psychopathes. Situé à l'altitude moyenne de 470 mètres au débouché nord de la vallée d'Illié, le terrain où sont érigés les bâtiments est orienté vers le sud-est et est parsemé de châtaigniers. Grâce à cette orientation, Malévaux est parfaitement abrité contre les vents et la bise. Ainsi, la moyenne de température y est sensiblement plus haute que dans la plaine qui s'étend à ses pieds.
Ici, on est à l'entrée de l'hôpital. On a face à nous la plaine du Rhône, la ville de Monté. Ça ressemblait à quoi il y a 100 ans ?
Alors, ce site surplombe la ville et lorsqu'on regardait ici, il y avait des champs.
Gabriel Binder, sociologue, historien et directeur du quartier culturel de Malévaux.
Quand on se met ici, et si on fait preuve un peu de sens de l'observation et d'imagination, on arrive à retrouver l'hôpital initial. Vous avez ce bâtiment qu'on appelle aujourd'hui les Muguets, qui est le bâtiment première classe. Là, vous avez pavillon des femmes. On voit, il y a 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres avec ces volets bleu turquoise. Okay. Ici, vous regardez, vous avez le jumeau. Voilà. Puis tout le reste a été ajouté peu à peu. Donc ça, c'est ce qu'on a en 1900. Après, on voit derrière, et c'est ça que je vous disais, vous voyez un peu la différence entre ce petit bâtiment qui est inspiré de l'architecture hôtelière et celui-là qui a été conçu pendant la guerre de 14 et puis qui fait déjà un peu plus caserne, quoi, un peu plus massif.
Les divers pavillons s'étagent les uns au-dessus des autres, ce qui permet à chacun une vue sans obstacle sur le splendide panorama des Alpes vaudoises se déroulant de l'autre côté de la vallée du Rhône. De plus, le parc offre des aspects très variés et s'est parfaitement prêté à un arrangement des plus heureux qui a permis d'éviter l'aspect de caserne et de prison, trop souvent l'apanage des asiles d'aliénés.
Architecture allemande, il y a plusieurs systèmes.
Vincent Barras, historien de la médecine.
Il y a soit le grand bâtiment central avec des subdivisions hommes-femmes, ça c'est cardinal, et aussi, selon les cas, selon les pathologies de l'époque ou les types de symptomatologie, les agités, les calmes, les bruyants. Vous avez des catégories assez curieuses, en tout cas au regard contemporain, mais qui correspondent à une certaine façon d'envisager la vie en commun ou séparée de ces catégories de population qu'on met à l'asile ou qui se mettent elles-mêmes à l'asile. Alors, ça détermine, en fonction aussi des concepts thérapeutiques des initiateurs de ces asiles, des systèmes assez différents, le grand bâtiment central ou alors le système pavillonnaire où chaque petit pavillon constitue une sorte de mini-entité, mini-hôpital en soi, souvent justement hébergeant une catégorie particulière, les tranquilles, les mélancoliques, les psychotiques, que sais-je. Vous trouverez toutes sortes de définitions et toutes sortes de classifications. Et Malevo est organisé plutôt sur ce système-là, en fonction des conceptions des gens qui ont mis en place ce système, à savoir des médecins et aussi des hommes politiques au début du XXe siècle.
Le plan des trois premières constructions esquissé par le docteur Paul Repon après de longues études et la visite de plusieurs établissements d'Allemagne fut réalisé par messieurs les architectes Broyer de Fribourg et Dufour de Sion. Deux pavillons, un pour les hommes, l'autre pour les femmes, étaient destinés aux aliénés exigeant une surveillance constante et le troisième, dit le pensionnat, aux malades tranquilles. Les premiers pavillons de surveillance comprenaient chacun au rez-de-chaussée une petite salle d'alitement continue de 5 lits avec 2 loges contiguës pour isolement temporaire, ainsi que 3 chambres d'isolement placées en annexe. Il y avait en outre, bien entendu, des locaux usuels de séjour, une salle de bain et à l'étage des dortoirs, chambres particulières et lavabos.
D'abord, la plupart des hôpitaux, ils étaient encore désignés comme asiles psychiatriques.
Christina Ferreira, sociologue.
Ils étaient souvent situés à la campagne, à la lisière des villes et des villages. Donc les malades internés, ils étaient mis à distance de la population. Et à ce moment-là, les hôpitaux, c'est une singularité suisse, ils n'ont jamais atteint des tailles gigantesques. Dans d'autres pays, après, c'est des milliers de malades internés. Par exemple, dans les années 30, si je prends l'exemple d'hôpital de Céry dans la périphérie de Lausanne, ils étaient entre les 500, 600 malades, alors qu'à Malevo, pour la même période, c'était dans les moitiés de 150. Mais ça restait quand même des structures de taille relativement humaine.
Ces pavillons sont munis de grilles aux fenêtres. À l'usage, cette protection s'est révélée comme absolument inutile et on a voulu les enlever. Malheureusement, les bâtiments auraient été entièrement déparés au point de vue architectural. De plus, un plébiscite organisé par les malades donna une forte majorité pour le maintien des grilles derrière lesquelles ils n'avaient guère l'impression de se sentir enfermés puisque la plupart pouvaient se promener dehors à certaines heures.
Le fondateur Repent, Paul, choisit un architecte, Dufour, et lui dit « Ne construis pas une caserne ou un couvent comme les autres hôpitaux psychiatriques. » Donc on pourrait dire que Malévo démarre sur un modèle un peu antipsychiatrique, dans le sens où
on veut... Ce serait anachronique de le dire, mais...
Oui, mais pour qu'on comprenne bien le terme antipsychiatrique. L'antipsychiatrie, c'est un mouvement porté par des psychiatres qui s'opposent à l'asile. Et le terme français, c'est antipsychiatrie, mais en fait, dans les autres langues, c'est anti-asilaire. Anti-hôpital totalitaire, où les gens sont enfermés, pris en charge, des milliers, avec le même statut. Donc on peut dire que c'est un contre-modèle.
Alors la question du mouvement asilaire-anti-asilaire est très complexe et très entremêlée tout au cours de l'histoire. Alors on a tous en tête les épisodes de la fin de l'asile à la fin des années 60, début des années 1970. Et cet arbre-là tend à cacher la forêt des débats, des initiatives, des enjeux autour de asile ou pas asile. Asilaire, c'est un type de prise en charge de la maladie mentale, ou supposait-elle, qui naît au début du 19e siècle par les pionniers, comme on les appelle, ou les inventeurs de la psychiatrie moderne, qui disent un malade mental doit être mis dans un lieu particulier pour bénéficier de soins médicaux, et ce lieu s'appellera l'asile psychiatrique.
Asile, étymologiquement, ça vient de
l'asile, asylum en latin, qui veut dire l'endroit où on reçoit des gens qui sont dans le besoin. Il y a les asiles de vieillards, asiles d'aveugles. Au XIXe siècle, il y a plein d'asiles qui se créent pour toutes sortes de populations particulières, dont les fous, qui deviennent des malades mentaux. Asilo, en italien, aujourd'hui encore, signifie l'école enfantine où on recueille les petits enfants. Donc, asile, ça veut dire on héberge. Il y a une connotation un peu chrétienne de recevoir. Mais l'asile psychiatrique, alors lui, c'est ceux qui sont dans un besoin de soins médicaux. Et certains des médecins ne sont pas d'accord dès le début que l'asile soit la solution pour ça. Ils préconiseraient plutôt des traitements ouverts. Il y a plein de colonies, des hébergements en famille de personnes avec des problèmes psychiques manifestes. D'autres diraient c'est la prison. Enfin, vous avez toutes sortes de variations possibles. Alors, celle qui s'impose pour des raisons à la fois politiques, administratives, économiques, financières et médicales, c'est l'asile. Chaque canton a un grand endroit dans lequel on met les fous pour les soigner comme des malades mentaux et en passant aussi les mettre à l'écart de la société. Il y a ce jeu de prison-soin, quoi. Enfin, prison, en tout cas, lieu pour les mettre à l'écart. Ils sont perçus comme pouvant constituer un danger pour le reste de la société, donc on les met dans un lieu où ils feront les fous entre eux, si on veut. Il y a ça, mais il y a aussi le soin. C'est indissociable l'un de l'autre. Il faut pouvoir protéger la société, il faut pouvoir les protéger de la société. Alors c'est sûr que si on s'intéresse à un asile particulier, au long de cette histoire, et en particulier au milieu du XXe siècle, il y a à la fois cette tradition-là. Nous sommes un asile, notre fonction, c'est d'héberger et de soigner des gens dont on suppose qu'ils ont besoin de l'être, les fous, les malades mentaux. Mais dans le cas de Malévo, avec le père Repont, qui dirige les débuts de l'institution jusqu'en 1916, après c'est le fils André, et eux, ils ont une position un peu sceptique, en tout cas pas entièrement enthousiaste pour l'asile. Chacun reconnaît les limites. Ils sont à la tête d'une institution dont ils ne reconnaissent pas nécessairement toutes les qualités.
Notre idée a été celle-ci, qu'il fallait lutter contre cette dévalorisation ultime que représente l'hôpital psychiatrique.
André Repont, interviewé en 1959 par la TSR.
C'est la raison pour laquelle nous avons attribué une très grande importance à l'aspect. Par exemple, les fleurs, pour nous jouer un très grand rôle, chaque malade doit avoir des fleurs. Il faut que les chambres soient jolies, soient harmonieuses, que les couleurs soient agréables, que tout soit confortable. Un luxe presque, nous dit-on de temps en temps. Mais ce n'est pas un luxe, c'est une des nécessités absolues du traitement. Il faut que le malade sente que l'on songe à son bien-être, à son confort, à son agrément. Et il y a là vraiment un élément psychologique, psychothérapique très important. C'est ainsi, par exemple, dans tous nos pavillons d'observation, les pavillons où ce sont les cases aiguës, etc., nous avons remplacé les portes de chêne par des portes de verre qui donnent l'aspect de la liberté. Il faut éviter tout l'aspect de ce que l'on appelle l'établissement carcéral, l'établissement prison. Le malade est un malade comme les autres, qui doit être soigné avec plus d'attention que les autres malades, que les malades physiques. Autrefois, dans les établissements carcéraux, il y avait toujours des malades entassés derrière les portes qui essayaient de sortir. Comment vous avez ouvert les portes? Ils n'ont plus envie de sortir.
Alors André Repont, ce qui le caractérise avant tout, c'est un psychanalyste. Il se forme à Zurich, dans, au début du XXe siècle. Et là, il tombe, comment dire, dans la passion de la psychanalyse qu'il aura jusqu'à la fin de sa vie et de sa carrière. Ce qui va le singulariser, c'est ce qu'on pourrait dire une volonté de démocratiser la psychanalyse. Les cures psychanalytiques étaient réservées à une élite qui supposait une certaine bagage culturel, langagier, savoir bien parler, avoir des capacités qu'on dit d'introspection et de critique sur soi-même. Donc c'était la psychanalyse était quand même fermée à une bonne part de la population. Ce qui est assez singulier chez André Repon, c'était sa conviction qu'on pouvait rendre accessible à la psychanalyse des personnes, même des enfants, qui autrement n'auraient pas eu accès en raison de leur statut socio-économique et un bagage culturel faible. Il était persuadé qu'on ne pouvait pas améliorer la condition humaine, on ne pouvait pas contribuer au bien-être des hommes et des femmes, enfants, adultes et personnes âgées, sans s'intéresser à la vie affective et au subconscient.
André Repon s'inspire, participe et contribue à un mouvement plus général qu'on appelle l'hygiène mentale, qui n'est pas celui seulement de la psychiatrie. L'hygiène, ça veut dire la santé, enfin, dans les termes de l'époque, c'est la santé mentale. Il y a évidemment quelque chose avec le terme hygiène qui se réfère à un terme plus général. L'hygiène, on découvre qu'il y a des choses qui peuvent nous contaminer, on se lave les mains et l'hygiène est respectée dans l'hygiène corporelle, par exemple. Ça date de la fin du 19e siècle, c'est vraiment concomitant et ça correspond directement. Et là, effectivement, dans cette idée d'hygiène mentale, il y a l'idée que, au fond, l'action du médecin, et y compris de l'institution psychiatrique dont il est le directeur, c'est non seulement de s'occuper des gens qui sont dedans, et qu'il faut traiter parce qu'ils ont des crises psychotiques très graves, des délires, des hallucinations, ou des tentatives de suicide, ou que sais-je, de violences extrêmes, mais aussi, cette action doit se poursuivre à l'extérieur, en amont. Comment faire pour éviter que ces gens en arrivent à des extrêmes comme ça si, du point de vue hygiénique, on s'y était pris plus tôt, en quelque sorte, on leur avait lavé régulièrement les mains, l'esprit, le cerveau, que sais-je. Et donc, veiller à ce que, notamment au niveau de l'enfance, eh bien, certaines situations n'aboutissent pas à des choses dont la science psychiatrique de l'époque se préoccupe, à savoir que vont-ils devenir plus tard, vont-ils devenir des fous dangereux. Ça veut dire que cet asile, un directeur d'asile qui a ces conceptions-là, il remet aussi en question le rôle central de l'asile. Et l'œuvre d'André Repon, c'est-à-dire Malévaux, c'est aussi d'aller, d'envoyer, de former des psychothérapeutes qui ne sont pas nécessairement médecins, pour aussi aller dans le Valais, c'est des vallées, comme son nom l'indique, c'est-à-dire aller au fond des vallées et voir les conditions d'hygiène mentale et proposer des programmes à la fois de prévention. L'alcoolisme, évidemment, c'est une condition très grave d'hygiène mentale. Et on sait que dans les familles, dit Repon, où il y a ce drame-là de l'alcool, eh bien, on fabrique des fous. Donc, comment faire pour prévenir cette fabrication de fous? C'est un modèle qui est très intéressant parce qu'il est relativement nouveau. Ce n'est pas le seul, de loin pas. C'est un mouvement mondial. Mais Repon, pour ça, en Suisse, en tout cas, acquiert cette figure, et même à l'international, comme un des porte-voix de ce mouvement d'hygiène mentale. Et ça se fait paradoxalement, à partir de ce lieu où cette question ne devrait pas être posée a priori, puisqu'il a été construit pour traiter des maladies mentales et non pas s'occuper de prévention.
Après de longs pourparlers et une étude approfondie, les deux parties arrivèrent à un accord sur les bases suivantes. L'État du Valais et le docteur Repon construisent, en prenant à leur charge chacun la moitié des frais, un établissement psychiatrique de 60 lits. Comme contrepartie de ces prestations financières, l'État du Valais peut y hospitaliser un certain nombre de malades indigents à un prix convenu et fort réduit. La responsabilité de l'exploitation incombait au docteur Repon seul, qui en assuma également les risques financiers. Il était prévu qu'après une période de 10 ans, l'État pouvait racheter l'établissement moyennant une indemnité à laquelle le médecin renonça, d'ailleurs, lors du rachat en 1916. Cette manière de procéder se révéla fort avantageuse pour l'État du Valais qui, pour une dépense relativement très peu considérable, pouvait parer à ses devoirs les plus pressants d'assistance aux aliénés. ne participant en rien aux frais d'exploitation, nullement astreint à couvrir des déficits éventuels, l'État contrôlait cependant l'administration de l'établissement et pouvait acquérir peu à peu une certaine expérience de sa gestion ainsi que de la pratique à l'assistance aux aliénés, sans s'encombrer de lois ou règlements trop minutieux.
Le modèle économique, il est assez génial. C'est, on va proposer des soins à des gens qui ont de la fortune. Parce que le directeur de cet hôpital, qui avait déjà fait carrière dans un hôpital public, veut développer une clinique privée, c'est pour ça qu'il appelle Maison de Santé de Malévaux. Et le business model, si on peut dire un peu, c'est, je fais des soins de qualité pour des patients de première classe, et puis j'accueille d'autres personnes. On va ouvrir un pavillon pour les pensionnaires tranquilles et un pavillon pour hommes et un pavillon pour femmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on débute avec une unité qui est mixte. C'est ceux qui ont de l'argent, qui sont tranquilles. Et puis deux autres unités pour hommes et femmes. On démarre avec trois petits bâtiments qui font 20 lits chacun. Donc c'est vraiment une micro-clinique. Par rapport à ce qui existait au 19e siècle.
Il y avait déjà... c'est à la fin du 19e siècle.
On, ouais, est on va dire, c'est l'extrême fin. Le premier patient à être hospitalisé à Malévaux, c'est en 1901, et c'est un Français.
Donc il y avait ces trois fameuses classes de malades, la première classe étant constituée par des personnes plutôt nanties, issues de la bourgeoisie, voire parfois d'aristocratie internationale et nationale. Et au début de la maison de santé de Malévaux, l'idée, c'était que ces malades première classe, qui finançaient eux-mêmes à l'hospitalisation, eh bien, ils représentaient 2/3 des patients. Ils pouvaient donc financer largement, ils pouvaient assurer l'autarcie financière de Malévaux. Et cette autarcie, a été maintenue à peu près jusqu'aux années 40. Et ça, c'est vraiment un effet direct de la Seconde Guerre mondiale. Cette patientèle première classe diminue. Et du coup, ils commencent vraiment à être dans le besoin, à être dans le déficit et à devoir dépendre davantage de l'État, des autorités publiques, pour le financement de l'hôpital. Ceci était très important parce que du coup, Malévaux, la direction médicale Malévaux, va perdre un petit peu de son autonomie que jusque-là elle avait. C'est une grande marge de manœuvre pour entreprendre toutes les réformes auxquelles ils ambitionnaient.
Comme on le voit, la crise politique, économique et la guerre ont eu une influence très sensible sur le nombre des admissions des malades soignés en première classe. Aussi, les recettes pour cette catégorie de malades ont-elles malheureusement considérablement baissé, soit d'environ 43 000 francs par rapport à l'année précédente. Aussi, pour la première fois depuis de nombreuses années, nos comptes bouclent par un important déficit de 33 768 francs 0,5 et l'avenir à cet égard nous paraît assez sombre.
1939. Le fléau de la guerre ravage l'Europe. On l'entend dans le rapport de cette année-là. L'institution doit s'adapter, faire des réserves. Dans le prochain épisode, nous allons y plonger dans cette guerre. Comprendre comment elle perturbe la marche de l'établissement et comment les personnes qui y travaillent se sont adaptées pour, coûte que coûte, continuer leur mission première, soigner les malades.
Les rapports Rebond, histoire d'un hôpital psychiatrique suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, une série de podcasts documentaires de Gabriel Binder et Gérald Wang, avec Jean-Luc Borja dans le rôle d'André Rebond. Voix off, Milou Beng. Piano, Daniel Hernandez. Réalisation, prise de son, montage et mixage, Gérald Wang. Une production Pavillon Nomade Malévo Quartier Culturel avec le soutien de la Fondation Philanthropique de Famille Sandeau.